Chapitre 5. Par sa construction même, car tout en conservant le nombre des versets, il n'a pas l'ordre alphabétique, ce chapitre se sépare nettement des chapitres précédents. Il est comme l'appendice du livre, tout en s'y reliant intimement. Il est la récapitulation de l'état du peuple après qu'il a reçu l'assurance de son entière délivrance. Chapitre 4, verset 22. Cette délivrance, tout en étant promise et assurée, n'a pas encore eu lieu. Il faut que Jérusalem attende un jour futur pour être introduite dans la jouissance des choses promises. Sa désolation dure encore et se continue de nos jours. Elle se renouvellera dans toute son horreur en un jour futur. Ce jour prophétique est en vue dans notre chapitre qui se compose de deux divisions dont nous allons examiner le contenu. Première division, versets 1 à 18. Souviens-toi, ô Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre opprobre. Verset 1. La peine de l'iniquité de la fille de Sion ayant pris fin. Chapitre 4, verset 22. Elle a désormais une pleine liberté pour dire à l'Éternel, souviens-toi. Jusqu'ici, nous n'avons trouvé ce mot que dans la bouche du prophète intercesseur et représentant de Christ. Chapitre 3, verset 19. Nous le trouvons maintenant dans la bouche de Jérusalem. Elle n'aurait pu prononcer elle-même ces paroles auparavant sans remettre ses iniquités en mémoire devant Dieu. Celle-ci ayant pris fin, elle ne présente plus devant lui que son épreuve et son affliction. Elle peut dire « Regarde » d'une toute autre manière qu'auparavant. Chapitre 1, versets 9, 11 et 20. Chapitre 2, verset 20. Chapitre 3, verset 63. Elle sait que, lorsque l'Éternel regardera et verra des cieux, chapitre 3, verset 50, il n'apercevra plus désormais les souffrances de Jérusalem comme conséquence de ses transgressions. Sa culpabilité ayant pris fin, la captivité ne se renouvellera plus. Cependant, lorsque le résidu prophétique parlera ainsi, ses circonstances n'auront pas encore changé. Jérusalem sera encore foulée aux pieds des nations. Les fidèles ont la certitude, ils n'ont pas encore la délivrance. Ils en sont encore à dire comme Ézéchias, « J'irai doucement, toutes mes années, dans l'amertume de mon âme. » Ésaïe 38, verset 15. Jérusalem récapitule toute son épreuve sous les yeux de celui qui regarde et auquel rien n'échappe. « Notre héritage, dit-elle, est dévolu à des étrangers, nos maisons à des forains. » Nous sommes des orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Versets 2 et 3. Les pères avaient péché. Ils ne sont plus. Et le joug pèse encore sur leurs fils. Verset 7. Pourtant, l'Éternel avait dit que les fils vivraient après que les pères seraient morts dans leur iniquité. Ézéchiel 18, versets 17 et 18. La position des fils ne semblait-elle pas contredire cette parole? Ils ne sont plus. Et nous portons la peine de leurs iniquités. Dieu pourrait-il tromper? Tous ces sentiments seront ceux du résidu intègre de la fin, tels qu'ils nous sont décrits dans les psaumes, car il ne faut jamais oublier que les lamentations, tout en décrivant l'agonie présente du peuple, sont aussi un tableau prophétique du travail d'âme et de conscience qui s'opérera chez le résidu juif fidèle des derniers jours. Cet état est, dans un sens, la condition actuelle de Juda et de Jérusalem, opprimée et dispersée, mais la Jérusalem d'aujourd'hui n'a pas le pardon comme le résidu de la fin. Elle est dans l'incrédulité et court au-devant de jugements plus terribles. Pour les croyants du résidu prophétique, les temps qui précéderont la restauration seront ceux où Dieu les estimera bienheureux. Voyez ce mot dans les psaumes. Mais ce ne seront pas des temps de réjouissance, quand même leurs relations avec Dieu seront rétablies. C'est pourquoi ils disent ici « Notre cœur a cessé de se réjouir. Notre danse est changée en deuil. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, car nous avons péché. » Versets 15 et 16. Et en effet, Dieu ne leur avait pas encore dit « Réjouissez-vous. » Voyez le chapitre 4, verset 22 comparé au verset 21. Leur cœur est abattu. La désolation de la montagne de Sion n'a pas encore pris fin. Verset 18. Leur douleur principale est même de voir cette sillon que Dieu avait établie jadis sur un fondement inébranlable, paraissant rejetée à toujours à cause de leur péché. Le moment n'est pas encore, dont il est dit, ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront l'allégresse et la joie, le chagrin et le gémissement s'enfuiront. Ésaïe 51, verset 11. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Seconde division, versets 19 à 22. Mais pour le moment, quelle que soit la souffrance, une chose suffit pleinement à l'âme. Toi, ô Éternel, tu demeures à toujours. Ton trône est de génération en génération. Verset 19. Il faut que la patience ait son œuvre parfaite. Même rentré dans son pays et mêlé au peuple incrédule, le croyant ne pourra pas encore proclamer qu'il a retrouvé les bénédictions d'autrefois. Il devra dire « Pourquoi nous oublies-tu à jamais? Nous abandonnes-tu pour de longs jours ?» Verset 20. Cependant, son âme est en paix. Les circonstances n'ont pas changé, mais il se sait pardonné. La pleine confession du péché des pères, mais aussi du péché du résidu lui-même, est faite. Verset 16. Tout orgueil a disparu. La couronne est tombée. La honte infligée à la montagne de Dieu par le péché du peuple reste encore le sentiment dominant. On en a fini avec l'homme. On est humilié. On ne relèvera plus la tête. Mais une chose est certaine, l'Éternel demeura toujours. Verset 19. Au verset 21, nous trouvons comme conséquence de tout le chapitre la demande d'une restauration finale, du rétablissement dans les bénédictions premières dont la folie de Jérusalem l'avait privé. Fais-nous revenir à toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme ils étaient autrefois. L'âme est désormais en liberté avec lui et en pleine confiance, sans pouvoir dire encore que cette restauration soit un fait accompli. Jérusalem s'est retournée, comme Dieu le dit en Jérémie 15, verset 19, « Si tu te retournes, je te ramènerai. » Mais elle n'est pas encore ramenée. Le verset 22 termine le livre. Le pardon est accordé. L'heure de la délivrance n'a pas encore sonné. L'âme en reste à la requête du verset 21. Cette restauration, cette régénération, ne peut venir que de Dieu. Ou bien, nous aurais-tu entièrement rejeté? Serais-tu extrêmement courroucé contre nous? Il ne reste donc que cette alternative. Ou la restauration définitive, ou le rejet définitif. Mais en parlant ainsi, l'âme n'hésite nullement, elle reconnaît seulement à Dieu le droit de la rejeter entièrement. C'est l'humilité, c'est la soumission à la volonté de Dieu, c'est le jugement complet de soi-même, c'est l'appréciation de la grâce qui ne peut rester en chemin et faire des choses à moitié après avoir pardonné et déclaré que, dans l'avenir, il n'y aurait plus de captivité. Ainsi se termine dignement ce cantique de l'humiliation et de la douleur, éclairé par les rayons de la grâce et de la rédemption. Le présent reste sombre au dehors, mais non pas pour le cœur que ces rayons ont illuminé. Les chrétiens peuvent s'appliquer toutes ces choses au cours de l'épreuve actuelle sous le châtiment de Dieu, mais d'une manière bien autrement bénie que ne pourra le faire le résidu de Jérusalem, car déjà nous connaissons le Père et nous sommes introduits dans le royaume du Fils de son amour. Vous tous, chrétiens sur lesquels pèsent les angoisses de l'heure présente, avez-vous traversé les exercices de cœur et de conscience qui nous sont décrits dans ces pages? Avez-vous reconnu votre péché, vos fautes et la nécessité des jugements qui se sont abattus sur vous? Avez-vous confessé que ces jugements pouvaient entraîner la perte définitive de votre témoignage, si le Seigneur lui-même ne sauvait ce dernier de la ruine? Avez-vous compris, sans perdre confiance en lui, que si de votre côté tout s'est effondré, lui, le Dieu Tout-Puissant, le Père, demeura toujours et que vous pouvez compter sur sa grâce? Puis, au milieu de tous ces exercices d'âme, avez-vous, sans haine et n'ayant horreur que de vous-même, regardé vers le Dieu juste qui voit tout qui punit l'iniquité des hommes, de leurs chefs et de leurs princes, l'oppression, la cruauté, la trahison et le mensonge, vers le Dieu dont le gouvernement ne tient pas le coupable pour innocent et qui est le Dieu des rétributions? Êtes-vous arrivé à conclure selon lui sur toutes ces questions vitales, sur votre propre état, comme sur celui d'un monde qui gît tout entier dans le mal? Et vous tous aussi, pécheurs que Dieu appelle, par les pertes, les deuils, les persécutions, l'oppression de l'ennemi, les angoisses qui souvent confinent au désespoir, avez-vous dit, comme le prophète, « Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas. L'Éternel est ma portion, dit mon âme, c'est pourquoi j'espérerai en lui. » Avez-vous, de la fosse des abîmes, invoqué le nom du Seigneur? Ah, s'il en est ainsi, soyez certain qu'il vous donnera cette réponse bénie, la peine de ton iniquité a pris fin.